7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et le journal de l'international avec Olivier Poujade. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Nicolas.
On part en Allemagne pour commencer Olivier, où le sort d'un correspondant de presse basé en Turquie provoque un véritable tollé.
Et le cas de Deniz Yücel met notamment en lumière, Nicolas, les relations tendues entre Angela Merkel et le président turc Erdogan depuis lundi. Le correspondant en Turquie du quotidien allemand Die Welt se trouve derrière les barreaux. Il est accusé par le régime d'Ankara de propagande terroriste. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Les Allemands sont vent debout, Cyril. Depuis deux jours, Deniz Yücel est devenu le symbole des atteintes à la liberté d'expression.
Eh oui, on a entendu hier des concerts de klaxons dans plusieurs grandes villes. Il y a une manifestation devant l'ambassade de Turquie à Berlin, un appel dans la presse signé par 300 personnalités. Ce sont quelques-unes des nombreuses initiatives en soutien à ce journaliste. Le hashtag #FreeDeniz est partout depuis deux jours et son visage fait la une de la presse. Le journaliste germano-turc de 43 ans, correspondant du quotidien Die Welt en Turquie, est la dernière victime en date du régime Erdogan. Depuis le putsch manqué l'été dernier, Ankara est en guerre contre toutes les voix discordantes. 150 journalistes se trouvent derrière les barreaux. Et Deniz Yücel, d'abord placé en garde à vue mi-février, se trouve désormais en détention préventive pour propagande terroriste et incitation à la haine.
Alors Cyril, que lui reproche précisément la justice turque ?
Eh bien, d'avoir publié dans Die Welt des éléments jugés compromettants pour le régime et notamment le contenu des emails du gendre de Recep Tayyip Erdogan, des messages qui avaient d'abord été dévoilés, rendus publics par un groupe de pirates informatiques et qui montrent bien comment l'AKP, le parti du président turc, fait pression sur les médias pour imposer ses vues. L'affaire a fait beaucoup de bruit en Turquie. Elle a suffi à mettre Deniz Yücel dans le collimateur de la justice qu'il accuse de complicité avec les terroristes, accusations scandaleuse pour l'employeur du journaliste. La direction de Die Welt, propriété du groupe de presse Axel Springer, a immédiatement protesté auprès des autorités allemandes. Et hier, l'ambassadeur de Turquie à Berlin a été convoqué au ministère des Affaires étrangères.
Mais ce qu'il faut préciser, Cyril, c'est que cette nouvelle affaire intervient dans un contexte diplomatique particulièrement tendu entre Berlin et Ankara.
Oui, l'an passé, déjà un humoriste allemand, Jan Böhmermann, avait provoqué la colère d'Erdogan avec un sketch insultant diffusé à la télévision. Le président turc a depuis engagé des poursuites et tenté de museler à distance ce célèbre animateur. Et depuis le coup d'État manqué, eh bien, les relations sont encore plus tendues avec Ankara, qui a empêché pendant plusieurs mois des députés allemands de se rendre en Turquie, où sont stationnés les soldats de la Bundeswehr engagés dans la coalition contre Daesh. Début février, Angela Merkel s'est rendue en Turquie. Elle avait à ce moment-là appelé Recep Tayyip Erdogan à respecter l'état de droit. Des propos qui sonnent étrangement creux. Quelques semaines plus tard, en Allemagne, l'opposition de gauche appelle la chancelière à durcir le ton, à montrer qu'elle n'est pas l'otage d'Ankara depuis qu'elle a signé un accord sur les réfugiés avec le régime turc. Plusieurs parlementaires veulent même interdire la venue d'Erdogan sur le sol allemand. Le président turc a prévu de venir faire campagne au mois de mars pour son référendum constitutionnel. L'enjeu n'est pas négligeable car, rappelons-le, plus de 3 millions de Turcs vivent en Allemagne.
En direct de Berlin, notre envoyé spécial Cyril Sauvageau.
Et direction maintenant Israël, Tel Aviv, plus précisément au sud de la ville, Olivier, Jaffa, dans le quartier de Ajami.
Quartier célèbre pour avoir donné son nom à un film récompensé à Cannes en 2009 et nominé aux Oscars l'année suivante. Ajami est un endroit populaire, jusqu'ici à majorité arabe, un lieu idéalement situé où les prix de l'immobilier flambent et cette tendance a plongé la famille Chaya dans une situation ubuesque, Nicolas. L'État d'Israël lui demande aujourd'hui de racheter la maison dont elle est déjà propriétaire. Bonsoir Marie Semelin.
Bonsoir Olivier.
Alors pour comprendre le problème de la famille Chaya, Marie, il faut d'abord faire un peu d'histoire, remonter juste avant la création de l'État d'Israël, avant 1947. À cette période, on est en Palestine mandataire. La maison appartient à Salim Chaya, au personnage de l'aristocratie chrétienne. Il l'a construite, cette maison, en 1920. Il y vit avec sa femme et leurs 7 enfants. L'année 1948 arrive, l'époque de la guerre d'indépendance pour les Israéliens, de la Nakba pour les Palestiniens, et les combats s'étendent jusqu'à Jaffa.
Oui, à ce moment-là, 3 des 7 enfants sont en vacances au Liban. Au même moment naît l'État d'Israël. Impossible pour eux de rentrer. C'est là que commence un cauchemar légal et immobilier pour la famille qui prend d'abord la forme de représentant de l'État. Il tape à la porte pour réclamer 40% de la maison. 40% ce que représentent les parts des 3 enfants sur 7 désormais absents. C'est Fadwa qui leur a ouvert, la plus âgée sur les 3 générations qui cohabitent sous le même toit.
Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a ?
Je veux voir combien de mètres vous avez.
Là, ils m'ont dit, vous devez payer pour le prix des 3 chambres où vous dormez. Vous devez payer la part des frères qui sont partis en 48. Sinon, on reviendra et on divisera la maison. Mais où est-ce qu'ils peuvent diviser la maison ? Toute la maison est habitée, mes enfants sont là, moi je suis là. Comment ils peuvent diviser ça ? C'est soit on paye, soit on nous met dehors.
Si l'État affirme posséder 40% de la maison, c'est à cause d'une loi, la loi des absents, c'est son nom. Votée en 1950, elle permet de déclarer propriété nationale les biens des Palestiniens qui sont partis à la création de l'État. À partir de là, le calcul est simple, certains sont absents, alors leur part peut être réquisitionnée, même si des membres de la même famille sont toujours dans les murs.
L'État a donc fixé un prix pour cette part de la maison que les Chaya doivent racheter, 1 million d'euros. La maison est très grande et a pris visiblement beaucoup de valeur.
Oui, et la somme a été réduite à 500 000 euros par un juge clément, mais la famille n'a pas les moyens de payer. Entre-temps, le quartier a changé de statut. Il est passé du coupe-gorge, où personne ne veut habiter, au quartier en vogue, où se mélangent les habitants arabes, les juifs israéliens qui n'ont pas les moyens de se loger à Tel Aviv et les nouveaux propriétaires d'appartements de luxe avec vue sur la mer. Georges, l'un des petits-fils, est épuisé par une décennie de procès. Lui-même a 4 enfants qui habitent la maison. Il est persuadé qu'elle sera rachetée à prix d'or par un investisseur et regrettent que leur histoire ne soit pas entendue.
Nous, c'est notre maison, elle a été bâtie par notre grand-père. C'était vraiment malchance, ils sont partis, ils n'ont pas pu revenir en 48. Alors c'est fini, on n'a pas de valeur. Notre vie, notre famille, notre histoire n'a pas de valeur. Pourquoi ? Chacun dans la vie, chaque personne, chaque être humain, il a une valeur, il a une histoire, il a une adresse, il a une maison, quand il achète, quand il bâtit, quand il vit dans un endroit, ça veut dire quoi ? Il n'y a plus de valeur, il n'y a que du business, il n'y a que de l'argent à faire.
Une histoire à peine croyable, hein, Marie, mais absolument pas isolée. Hein. Beaucoup de ces habitants de Jaffa ont déjà dû ou vont devoir partir, chassés par soit les loyers inaccessibles ou parce que leur droit sur leur maison n'est pas reconnu. Une bataille économique qui cache également un combat idéologique que redoute la famille Chaya.
Oui, et depuis quelques années, arrivent de nouveaux habitants poussés par la frange très à droite des nationalistes religieux. Le but affiché, c'est que le quartier perde son caractère arabe. Un des lieux qui cristallise ces tensions, c'est une école religieuse un peu particulière, puisque son fondateur est un rabbin venu de Beth-El, une colonie de Cisjordanie. À son arrivée, habitants juifs et arabes du quartier ont manifesté, comme Sami Aboucheadeh, un ancien élu de la mairie.
Ici, on est dans un des endroits les plus tendus du quartier de Adjami. Récemment, des nouveaux colons sont venus s'installer dans Jaffa. Le rabbin Eliyahu Mali, un des colons de Beth-El, est venu ici pour y ouvrir une yeshiva. Il a choisi d'installer sa yeshiva dans un quartier qui a une population arabe à 90%. Quand ils sont arrivés dans notre quartier, ils nous ont dit que pour eux, la solution dans les villes mixtes, c'est la séparation. Imaginez quelqu'un qui arrive dans un quartier et qui vous dit que pour lui, la solution, c'est la séparation.
Et les responsables de l'école n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Ils ont évoqué un contexte délicat.
La flambée des prix de l'immobilier au service de la droite nationaliste religieuse israélienne. Reportage de notre correspondante Marie Semelin dans le quartier de Jaffa à Tel Aviv.
Et place maintenant à l'incontournable DER de Bruxelles, Olivier, comme chaque mercredi.
Avec ce soir une commission européenne sous influence, c'est en tout cas ce que dénonce le Parlement à Strasbourg qui s'est prononcé hier en faveur d'une directive destinée à protéger les salariés exposés à des agents cancérigènes sur leur lieu de travail. Bonsoir, Johanna Hochstein.
Bonsoir.
En direct de Bruxelles, vous nous parlez ce soir, Johanna, de silice cristalline alvéolaire, de poussière de bois, de gasoil, pas vraiment des matières matières qui font rêver. Il s'agit de substances chimiques hautement cancérigènes sur lesquelles l'Europe tente tant bien que mal de renforcer sa législation. Alors où en est-on, Johanna ?
Alors, la législation européenne actuelle, qui remonte à 2004, n'encadre pour le moment que 5 produits dangereux, pas un de plus, le benzène, le chlorure de vinyle, les poussières de bois, l'amiante et le plomb. Ces substances cancérigènes, on les retrouve dans le secteur du bâtiment, du bois, de la chimie notamment. L'an dernier, la Commission européenne propose de définir des valeurs limites d'exposition pour 50 autres substances. Ce texte était très attendu par les syndicalistes et pour cause. Chaque année, ce sont 100 000 Européens qui meurent des suites de cancers d'origine professionnelle.
Et donc la révision proposée par la Commission européenne répond-elle aux attentes des travailleurs ?
Alors non, et cela sans surprise, car à la dernière minute, la Commission européenne renonce à inclure sur sa liste les vapeurs de diesel, reconnues pourtant comme deuxième cause de cancer professionnel après l'amiante. Autre source de mécontentement, les limites fixées sont bien en deçà de celles souhaitées par les syndicalistes. Prenons par exemple le chrome 6, qui est dégagé en fait lors de la soudure ou lorsqu'on travaille le cuir. Les plafonds de tolérance proposés par la Commission européenne sont 25 fois supérieurs à ceux en vigueur en France. Les eurodéputés qui ont voté le texte hier dénoncent un manque cruel d'ambition et une forme de complicité de la Commission avec l'industrie.
La Commission est donc en train de céder une nouvelle fois aux sirènes du lobby de l'industrie.
Eh bien, c'est bien ce que tout porte à croire, selon plusieurs sources, et le journal Le Monde a repris l'information la semaine dernière. Des 22 experts du comité scientifique censé fixer ces valeurs, 15 entretiendraient des liens étroits avec le secteur industriel, avec le chimiste allemand BASF par exemple, ou encore avec la compagnie pétrolière néerlandaise Shell. Vous en conviendrez, il est donc difficile pour la Commission européenne d'être crédible lorsqu'elle plaide l'indépendance de ses experts scientifiques quand il s'agit de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Johanna Hochstein en direct de Bruxelles.
Et on termine avec la convocation de François Fillon par les juges qui est officielle depuis ce matin. Énième rebondissement d'un feuilleton, Olivier, qui laisse nos voisins totalement incrédules.
Oui, depuis des semaines, la presse étrangère s'étonne que le candidat Les Républicains soit encore en course dans cette présidentielle, du Guardian au New York Times, en passant par les journaux suédois, bien sûr. La Suède intransigeante sur l'exemplarité de ses hommes politiques se moque du Penelope Gate par la voix du groupe Blonde and Blonde and Blonde, interprétation lyrique moyenâgeuse d'un morceau de Maître Gims.
Est-ce vous la tâche par les montagnes?
Penelope Fillon, épouse exemplaire
du grand vainqueur de la droite primaire.
Oh les mains, dans le sac façon Calzac. Oh les mains, peau de lapin, Penelope en maillot de bain. Oh les mains, dans le sac façon Cahuzac. Oh les mains, peau de lapin, Macron se frotte les mains.
Alors voilà, une parodie diversement appréciée dans l'équipe d'Un jour dans le monde. Certains trouvent ça simplement rigolo, d'autres absolument pas, à vous de juger. Sachez enfin, Nicolas,
oui,
qu'Ilmari Koppinen et Emil Powell se sont affrontés aujourd'hui en finale du 60 mètres en salle. Petite précision, ils sont tous les deux nés en 1918. Et sont encore capables de piquer un très joli sprint. Un grand bravo en tout cas à ces deux nonagénaires. Je ne cautionne absolument pas, Nicolas, cette illustration sonore, œuvre de notre réalisateur Éric Lenné.